Good Evening Business, le journal.
Donc ça continue de s'agiter à 24 heures de la présentation du projet de budget en Conseil des ministres. Bonsoir Thomas, ça s'est agité du côté de Gabriel Attal et du groupe Ensemble pour la République. Ils ont fait des propositions pour faire plus de réformes et donc éviter des hausses d'impôts. C'est ça Thomas?
Alors Gabriel Attal, c'était à la mi-journée, hein, conférence de presse à l'Assemblée de son groupe parlementaire Ensemble pour la République. Il affirme haut et fort, partagé avec Michel Barnier, la nécessité de réduire le déficit et de faire des efforts. Sauf que vous allez l'entendre, Gabriel Attal n'a pas vraiment la même conception que Michel Barnier du mot « effort ».
La crainte que nous avons déjà exprimée, c'est que le budget qui semble se dessiner n'intègre pas assez de réformes et trop d'impôts, avec le risque de déstabiliser nos industries et la classe moyenne qui travaille. La hausse prévue des charges pour les entreprises, la hausse plus forte que prévue sur l'électricité, le gel des retraites pour 6 mois et d'autres mesures fiscales nous semblent trop charger la barque pour les Français. Nous ne voulons donc qu'une chose, tenir parole, et la parole que nous avons portée pendant les élections législatives, et être responsable en aidant évidemment le gouvernement à réduire le déficit.
Pour éviter ces hausses d'impôts ou de charges, l'ancienne majorité promet des réformes ou des économies du même montant à l'euro près, dit Gabriel Attal. Par exemple, au lieu d'augmenter les charges sur les bas salaires, Ensemble pour la République propose d'appliquer la dernière réforme de l'assurance chômage qui rapporterait autant d'argent, 4 milliards d'euros, et qui créerait 100 000 emplois. Idem pour la hausse des taxes sur l'électricité qui coûterait 3 milliards d'euros supplémentaires aux Français. Si l'État relevait la taxe non pas à son niveau d'avant-crise de 30 euros le mégawattheure, mais à 42 euros, l'ancienne majorité propose à la place de faire le même montant, 3 milliards d'euros d'économies dans la dépense sociale avec une baisse des indemnités journalières, une moindre prise en charge des transports sanitaires et la mise en place d'un jour de carence d'ordre public. Et enfin, au lieu de geler les retraites pendant 6 mois, une mesure qui rapporterait 4 milliards d'euros à l'État, Gabriel Attal et son groupe proposent de mettre les collectivités locales à contribution en simplifiant le millefeuille territorial. Un rapport avait été remis il y a quelques mois qui identifiait 7 milliards d'économies et en faisant appliquer aussi de manière concrète et réelle les 35 heures dans toutes les collectivités.
Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas, voilà pour ce budget qui sera donc présenté demain en Conseil des ministres à 18h. L'Allemagne, par ailleurs, s'est confirmée, sera bien en récession cette année pour la deuxième année consécutive. C'est le vice-chancelier Robert Habeck qui l'a concédé. Ce midi, 19h05, dans l'actualité des entreprises, ce sont des chiffres qui étaient très attendus, qui viennent de tomber chez Airbus. Bonsoir Jean-Baptiste Huette. Airbus, on vient de l'apprendre, a livré 50 appareils en septembre, 5 de moins que l'an dernier à la même époque. Ça confirme que la situation se complique de ce point de vue-là, Jean-Baptiste.
La tendance n'est pas bonne. L'objectif d'Airbus, c'est de livrer 770 avions d'ici la fin de l'année. Et 770, c'est, j'allais dire, la fourchette basse. Parce qu'initialement, Airbus tablait sur 800 avions pour cette année. Que nous disent les chiffres du mois de septembre? Vous l'avez dit, 50 appareils livrés. On va dire que c'est vraiment le minimum syndical. Airbus va donc devoir produire d'ici la fin de l'année 273 appareils en 3 mois. Ça fait 91 avions par mois. Alors c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Et vous avez certains analystes, notamment chez UBS, qui commencent à se dire qu'Airbus ne pourrait livrer finalement que 750 avions au lieu de 770. Pourquoi cette tendance est un problème alors que les carnets de commandes d'Airbus, on le sait, débordent? Eh bien, la réponse, elle est simplissime, c'est que le paiement des avions, il a lieu à la livraison. Donc, moins vous livrez d'avions, moins vous avez de cash dans vos caisses. C'est mathématique. Et donc, le problème de fond chez Airbus, c'est d'abord la sous-traitance, toute la chaîne de sous-traitance, la supply chain. Il y a toujours des congestions, c'est compliqué. Mais il y a aussi des problèmes internes de production. Il y a quelques jours, le groupe a dégainé officiellement ce qu'il appelle son plan LEAD, qui est un plan d'économie sans suppression de postes, parce qu'on a du mal à trouver les profils. Donc, en plus, si on met dehors, c'est encore plus compliqué, qui vise à améliorer la production. Donc, on va faire des audits à droite, à gauche pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a vraiment une grosse pression sur Airbus, parce que si les objectifs de livraison ne sont pas atteints à la fin de l'année, ce sera la deuxième fois consécutive, puisque ça avait déjà été le cas l'an dernier.
Et juste pour savoir, chez Boeing, comment ça se passe pendant ce temps?
Situation critique. Chez Boeing, clairement, l'avionneur américain est empêtré dans un mouvement de grève massif depuis maintenant un mois. Vous avez 33 000 personnes qui ne travaillent pas, travaillent plus dans les usines. Les deux principales usines du groupe à Renton sont à l'arrêt total. Évidemment, c'est une catastrophe pour les finances. L'argent ne rentre pas dans les caisses. S&P estime que Boeing perd $1 milliard par mois. Et d'ailleurs, dans les jours qui viennent, Boeing devrait lever de la trésorerie sur les marchés pour sécuriser, lever des fonds sur les marchés pour sécuriser sa trésorerie, devrait lever 10 milliards d'euros. Et puis les négociations sont dans la passe parce que hier, la direction de Boeing a rompu les discussions, estimant que les demandes des syndicats allaient au-delà de l'acceptable. Les machinistes réclament des hausses de salaire allant jusqu'à 40%. Malgré tout, petite éclaircie pour Boeing, ils sont quand même, malgré cette situation, parvenus à livrer 33 appareils au cours du mois de septembre.
Merci beaucoup Jean-Baptiste. Situation tendue donc chez Airbus et Boeing. 19h08, on retourne sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Ça s'est bien passé à la Bourse de Paris aujourd'hui.
Oui, plutôt bien, plus 0,52% pour le CAC 40 qui termine à 7560 points. On a eu un petit peu de volatilité. Alors à noter que les volumes d'échange n'étaient vraiment pas très élevés, à 2,6 milliards d'euros d'actions négociées. On a quand même eu une hausse plus franche du côté de Francfort avec un DAX qui gagne quasiment 1% en clôture. Record absolu pour l'indice DAX, plus 0,68% pour l'Eurostock 50. La vedette du jour, c'est Renault qui a gagné 3,3% à 39,35 €. Une petite mise au point de Renault vis-à-vis des analystes financiers. Il y a eu des échanges téléphoniques avec les principaux de la place de Paris pour dire non, il n'y a pas de profit warning dans les tuyaux. A priori, on va confirmer nos prévisions lors de la publication des résultats.
Faut dire que tout le monde la regarde, comme tout le monde a fait des profit warning.
Il y a ça. Et puis Renault a perdu 10% sur la semaine écoulée. On l'avait quasiment inscrit dans les cours, ce profit warning. Donc Renault dit non, attention. Donc le titre s'est bien redressé. Et puis ça suit déjà une première hausse de redressement. C'était lors de la séance d'hier. Et puis, à noter deux titres en difficulté quand même. Téléperformance qui a perdu 2,1% à 89 €. Puis alors surtout Dassault Systèmes qui enchaîne une cinquième séance de baisse consécutive. Une vraie spirale pour Dassault Systèmes qui perd 6% sur les cinq dernières journées de bourse. Moins 0,64% encore. 34,13 €. À signaler quand même hors CAC 40 la très belle hausse des équipementiers auto dans le sillage de Renault. Forvia qui gagne 4,3% à 8,63 €. Puis à noter Valeo aussi qui était en forme. Plus 3% à 10,34 €. Stellantis en a même profité pour grappiller 1,8% à 12,21 €. Le CAC donc plus 0,50 de 7560. L'euro 1,0948. À noter le pétrole qui a bien consolidé. 76,50 $.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. C'est la mi-séance bien sûr. Le Dow Jones qui grappille 0,8%. 42 411 points. L'indice Nasdaq de son côté qui progresse de 0,34%. 18 245 points à la mi-séance. 19h10. La campagne américaine tout de suite.
USA 2024, la présidentielle.
Sous les radars de cette campagne qui s'accélère. Bonsoir Benaouda Bedaïm.
Bonsoir.
Dans cette campagne, on injecte en publicité des montants prodigieux, à tel point que les sénateurs démocrates accusent leurs collègues républicains de les financer de manière illégale. La commission électorale américaine va se prononcer demain jeudi, Benaouda.
Oui, la campagne sénatoriale des démocrates dit que le camp d'en face, celui des républicains, est vraiment allé trop loin dans le contournement des règles de financement. D'où cette saisine de la FEC, c'est la commission électorale fédérale qui veille à l'application de la législation sur le financement des élections. Le média politique Axios rapporte l'information. Les démocrates affirment que les républicains ont élaboré des publicités dites d'attaque, donc des publicités pour dénigrer le camp d'en face, payées par des comités de collecte de fonds, comme s'il s'agissait d'une publicité pour lever de l'argent. Les plaignants ont relevé cette infraction présumée en Arizona, au Maryland, au Montana et au Nebraska. Les démocrates font valoir que cette tactique contrevient aux limites imposées par les contributions, dans les contributions à ces comités. Les républicains, eux, soutiennent que la FEC a déjà avalisé un précédent, c'était en 2007, et qu'au passage, même la vice-présidente, Kamala Harris, a usé de cette tactique qui vise à faire coup double. Est-ce que l'instance de régulation va demain donner gain de cause aux démocrates? Rien n'est moins sûr, dès lors que cette commission s'est révélée, elle aussi, traversée par une ligne de fracture partisane. Et en cas de vote à égalité au sein de ce collège, chacun continuera donc comme il l'entend.
Et quels sont de part et d'autre les trésors de guerre dont on parle ce soir, Benaouda?
Les deux partis ne regardent plus du tout à la dépense. Il y a 40 ans, aux États-Unis, il fallait réunir 1 700 000 dollars pour être élu sénateur, en moyenne bien entendu. Il y a 4 ans, ce sont 15 700 000 dollars qu'il fallait consacrer à votre campagne. Les scrutins du mois prochain pourraient rendre ce montant tout à fait obsolète si l'on rassemble l'Ohio, la Pennsylvanie et le Montana. Depuis le début de l'année, pas loin de 750 millions de dollars y ont été injectés dans des publicités pour les sénatoriales. Les deux parties sont au coude à coude en termes de dépenses. Les espaces pubs sont saturés. Il en va de l'obligation de sauver un siège ou de conquérir dans tel ou tel état charnière. Et ce qui vaut pour le Congrès vaut bien davantage encore pour la Maison-Blanche. Le mois dernier, il a été calculé que les soutiens de la vice-présidente Harris ont réservé pour 332 millions de dollars à la télévision et à la radio pour une surdurée de 7 semaines. Quant au soutien de l'ex-président Trump, ils ont déboursé 194 millions de dollars. La campagne démocrate justifie ce surinvestissement en dépeignant Kamala Harris comme l'outsider qui doit en faire plus pour surmonter son handicap initial. Elle n'est confrontée en tout cas à aucun souci d'argent. Ses équipes ont collecté des fonds à des niveaux absolument records. À en croire Open Secrets, qui dispose d'une base de données ouverte sur les financements de campagne, les dépenses du cycle électoral de 2024, dans leur totalité et tout scrutin confondu, seront certainement les plus élevées de l'histoire, 15,9 milliards de dollars, le PIB d'une nation en quelque sorte. Ça va représenter 2,5 fois la facture nominale de 2016. Un spécialiste envisage donc un point de saturation, mais il pense qu'il existe une telle volonté d'intérêt particulier de sélectionner leurs élus à eux, qu'en réalité, il n'y a pas encore de plafond de coûts d'une élection américaine.
Voilà pour cet argent qui continue de couler sur cette campagne, sur ces campagnes, puisqu'on va renouveler, on le sait, une partie du Congrès également le 5 novembre prochain. Merci beaucoup, Benahouda. À demain, 19h10, bien sûr.
USA 2024, la présidentielle.
19h14, nos experts arrivent dans un instant. Beaucoup de choses, le Money Time avant le budget. Demain, l'ouragan Milton qui va frapper la Floride. Google menacé de scission et puis OpenAI qui ouvre un bureau à Paris. Et tout ça, plus bien d'autres choses jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h18, ils sont là, nos experts, comme tous les soirs, bien sûr, pour refaire l'actu. Denis Jacquet est revenu, quand même.
Oui.
Envers et contre tout, fondateur du mouvement Day One qui nous arrive des Amériques. Alors, la Floride, bien sûr, évidemment, tout à l'heure. Benjamin Corriette est avec nous. Benjamin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Professeur de Sciences Éco à Paris 13. Et puis Jean-Victor Semeraro est avec nous. Jean-Victor, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à la Tribune, soyez le bienvenu. C'est votre première. On vous accueille avec grand plaisir. Et on vous accueille dans ce Money Time sur le budget, puisque demain, présentation, bien sûr, en Conseil des ministres. Ça sera à 18h, horaire un petit peu inhabituel. Et puis, dans la foulée, le projet va arriver à l'Assemblée. Et vous allez voir, ça ne va pas détonner seulement du côté des extrêmes. Les macronistes, eux aussi, sont remontés comme des pendules. Écoutez, Gabriel Attal, qui a attendu la veille de la présentation au Conseil des ministres pour faire ses propositions pour éviter les hausses d'impôts. Écoutez.
La crainte que nous avons déjà exprimée, c'est que le budget qui semble se dessiner n'intègre pas assez de réformes et trop d'impôts, avec le risque de déstabiliser nos industries et la classe moyenne qui travaille. La hausse prévue des charges pour les entreprises, la hausse plus forte que prévue sur l'électricité, le gel des retraites pour 6 mois et d'autres mesures fiscales nous semblent trop charger la barque pour les Français. Nous ne voulons donc qu'une chose, tenir parole, et la parole que nous avons portée pendant les élections législatives, et être responsable en aidant, évidemment, le gouvernement à réduire le déficit.
Voilà, ambiance en quelque sorte. Ça donne un petit peu le climat dans lequel on va commencer cette discussion budgétaire. Donc il a ses idées pour éviter les 20 milliards de hausse d'impôts, Gabriel Attal. Donc, appliquons déjà la réforme de l'assurance chômage, 4 milliards, 3 milliards d'économies dans les dépenses sociales, 7 milliards en simplifiant le millefeuille territorial en faisant appliquer les 35 heures dans les collectivités locales. Là, il nous vend à mi-mandat et sans majorité une réforme de l'État, Jean-Victor. C'est ça, finalement.
C'est vrai.
C'est un peu gonflé, quand même, non?
On se demande un peu ce qu'il a fait les 6 derniers mois. Il oublie qu'il était Premier ministre. C'est aussi dans la droite ligne avec Gérald Darmanin de la semaine dernière, quand Gérald Darmanin a dit que le budget était inacceptable. Donc ils poursuivent ça, ils mettent la pression évidemment sur Michel Barnier à 24 heures de la présentation du budget, mais on se demande un petit peu ce qu'ils vont obtenir.
Bah bien sûr. Mais ça va être une véritable marchandage de tapis. Benjamin, comment est-ce que vous regardez cette session budgétaire là qui va commencer? Et on voit que effectivement, ça va partir de partout finalement.
Oui, non, mais ce que je trouve assez étonnant d'une certaine manière, c'est après la faillite quand même, hein, dans laquelle ils nous ont conduits, après avoir dissimulé 100 milliards, hein, ils nous donnent des leçons. Donc je veux dire, il y a un minimum de pudeur, quoi. Il y a un moment où il faut dire, ok, on vous donne votre chance, hein. Je veux dire, c'est le minimum, hein. Parce que je veux dire, au nom de quoi, quelle est leur légitimité pour dire ça va pas? Moi je suis stupéfait, franchement, je suis stupéfait. Bon, quand même, les dernières informations, c'est que Il y a 100 milliards de déficit sur le, qui ont été tus. Ça veut dire que le passage des 4,6 à plus de 6, il a été tu. Et maintenant, il nous donne des leçons.
Est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on saura un jour ce qui a dysfonctionné à Bercy, Jean-Victor ?
Ah, on sait qu'il y a eu une dérive forte, évidemment.
Non, c'est pas possible. C'est pas possible.
Il y a forcément eu une dérive, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, sur Gabriel Attal, vous avez remarqué que ce matin, le gouverneur de la Banque de France a dit qu'il fallait arrêter le chamboule-tout.
On va l'écouter dans un instant. Oui, oui, il a dit ça.
Donc, c'était aussi un message adressé, je pense, à lui et à Gérald Darmanin.
Eh ben, on travaille moins bien à Bercy. Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Des compétences, je sais pas.
Non, mais là, il y a eu une opération de dissimulation d'une dérive qui ne peut
c'est
pas.
Ça, on sait pas.
Avec cette ampleur-là, c'est pas possible.
On sait aussi qu'il
y ait des dérives de quelques milliards, oui, mais de cette ampleur-là, non, c'est pas possible.
Victor, on sait qu'il y a eu des recettes fiscales, notamment de TVA, qui sont moins rentrées cette année.
Oui, mais
c'est vrai.
Tous les ans,
ce sont des moindres recettes qu'on n'a pas vu venir en début d'année, fin 2023, début 2024.
Bruno Le Maire parlait de 20 milliards au début d'année.
Oui.
Voilà.
Il est allé deux fois à la télévision.
On serait aujourd'hui à près de 100 milliards, effectivement. Et c'est vrai que le fait aussi de ne pas accepter de loi de finances rectificative de la part de Michel Barnier pose question du point de vue du droit. Beaucoup d'économistes l'ont dit récemment, donc c'est vrai que ce point-là est quand même, cette dérive et le fait de ne pas repasser devant le Parlement pour corriger pose question.
Denis Jacquet, comment est-ce que vous voyez cette situation budgétaire française ? Est-ce qu'à chaque fois que vous repassez en France, vous avez l'impression de voir le même film finalement, qui venait de New York ?
Je peux que paraphraser, mais je veux dire, c'est vraiment le garagiste qui sabote la voiture et qui vient expliquer au nouveau comment il devrait la réparer. En fait, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais quand même, t'as vu ce Attal, il a du talent, il communique bien. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Où est sa vision ? Il n'était pas au gouvernement depuis le début.
Comment va y chercher à exister pendant la séquence budgétaire parlementaire et puis au-delà, quoi.
Mais c'est un tel aplomb, c'est vraiment se foutre du monde. Bon, alors. Déjà, il n'y avait pas vraiment de pilote dans l'avion, parce que Bruno Le Maire, c'est comme si moi, vous me nommez ministre de la Santé. Je veux dire, j'ai quand même une légitimité qui est assez limitée. J'ai fait une école de commerce, donc a priori, c'est pas vraiment ma destinée. Donc déjà, Bruno Le Maire, c'était un très mauvais casting. Il était compréhensible politiquement, mais incompréhensible en termes de compétences. Et de l'autre côté, moi, je suis d'accord avec Benjamin, on ne peut pas ne pas avoir fait autre chose que de la dissimulation sur une somme aussi importante. Déjà 20 milliards, le gars quitte son domicile le matin, il arrive, dis donc, j'ai perdu 20 milliards entre chez moi et ici, je sais pas où ils sont passés. Mais 100 milliards, on atteint des sommets qui ont été forcément dissimulés quelque part. C'est juste une faillite là où c'est plutôt le cumul de l'incompétence politique française.
Ce qui est fait. Oui,
Jean-Luc. Sachant que le chiffre de 60 milliards de redressement est lui-même questionné.
Voilà exactement ce sur quoi je voulais vous amener. Oui, on n'a pas le détail. Alors les 20 milliards d'euros de hausse d'impôts sont documentés.
Le cadrage macroéconomique parlait de 1,4 point de PIB. Donc on est plutôt autour de 40-45 milliards d'économies avec donc un ratio moitié dépenses, moitié hausse d'impôts.
Ouais.
Donc, elle est plutôt avec des hausses d'impôts plus fortes que les dépenses. Donc, 25 milliards, 20 milliards. Donc, on serait pas aux deux tiers, un tiers présenté par le gouvernement. Sachant que le gouvernement disait on va faire 60 milliards d'économies. En fait, c'est si on laissait les choses se faire,
on ne fait rien,
alors,
si on ne fait rien.
En 2025, on serait à 7% de déficit du PIB et il faudrait faire 60 milliards d'économies. Mais c'est pas ce qui va se passer dans la réalité.
Ce qui est inquiétant, c'est que les 20 milliards d'euros de hausse d'impôts, on en parler dans un instant, Benjamin, sont documentés, mais les 40 milliards, enfin, ce qu'on présente comme 40 milliards, là, par contre, à ce stade, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus. Et on n'aura pas tout le détail demain, forcément, Jean-Victor.
Certainement. C'est vrai que alors, sur la partie recettes, donc hausse de fiscalité, on sait que les grandes entreprises vont être mises à contribution, les 300 plus grandes entreprises, avec une surtaxe d'IS. On sait pour les gros contribuables aussi qu'il va y avoir la surtaxe, qui était déjà une surtaxe, qui va être encore alourdie pour les hauts revenus. Donc tout ça, on le sait déjà. Après, il y aura des choses qui vont être précisées, notamment sur les allègements de charges pour les entreprises. Il y a des choses qui vont être précisées demain.
Déclaration de ce soir du patron du MEDEF, Patrick Martin, au site des Échos, qui nous dit très, très sincèrement, alléger les charges, les exonérations de charges sur les entreprises détruirait des centaines de milliers d'emplois.
Non, moi je crois pas.
Non, Benjamin,
très,
non,
vous... très honnêtement, je pense que on est allé beaucoup beaucoup trop loin dans ce dispositif, enfin dans les dispositifs d'allègement de charges. Alors moi je dirais pas forcément pour les plus bas des salaires, mais aller jusqu'à 3,2 SMIC, je crois, suivant pour certaines choses. Ça, à mon sens, ça a vraiment presque plus de sens. Donc, je veux dire, sur le fait qu'on retouche ces dispositifs, je dis on retouche, hein, voilà. Et moi, ma préférence, oui, d'économiste en tout cas, comme je comprends le marché du travail et le fonctionnement des entreprises, qu'on retouche en revenant sur un certain nombre d'aides et de subventions sur les plus hauts. Salaires qui sont encore subventionnés, sur lesquels il y a des... Moi, ne me choquerait pas du tout. Et surtout dans une période où on a besoin de faire des économies. Là, c'est de la dépense fiscale en moins, si je peux dire. Moi, ça me choque pas.
Sachant qu'une réforme comme ça, ils vont pas pouvoir la faire du jour au lendemain, que ça prendre du temps, qu'on
c'est une usine
à gaz, et que là, on est vraiment dans le colmatage et qu'on essaye de trouver absolument des recettes.
Absolument.
Mais c'est du colmatage qui peut durer, hein.
Non, et puis en plus, je rajoute juste un mot, c'est que on dit toujours ah oui, mais ça porte sur 1 milliard, 2 milliards. Là, il y a 78 milliards, hein. Donc je veux dire
les agents de charge, oui.
Oui, c'est oui, ça. Oui. Donc si on touche
à ça, on va en chercher 3-4.
Si on touche à ça intelligemment, il y a du gras, quoi. C'est ça que je veux dire. On va pas toucher les 78 milliards.
Non, mais j'entends bien.
Mais je veux dire, on est sur un gros bloc. On peut travailler dans un gros bloc.
Sauf que la situation des entreprises n'est pas aussi flamboyante qu'on le dit. On était là avec Pierre-André de Chalandard, l'ancien patron de Saint-Gobain, qui était, vous savez. Pensez pas que les entreprises sont aussi florissantes, la situation est aussi florissante aujourd'hui qu'on le pense finalement. Ouais. Voilà.
Il y a des situations inégales.
Parfois mirifiques, mais qui sont faites à
l'international. Non, il y a des situations inégales, mais on peut pas nier que les taux de marge sont revenus. Bon.
Jean-Victor.
On sent qu'il y a un peu un mouvement qui pousse pour que toutes les aides qui sont données aux entreprises soient affectées à un but précis et soient mieux évaluer du temps. Il y a quand même un gros déficit de pilotage, d'évaluation. On a parlé notamment du crédit impôt recherche.
Ouais.
Les dépenses ont beaucoup augmenté. On sait pas. Enfin, les choses ne sont pas très bien pilotées. Il y a quand même ce point-là à améliorer. Mmh.
Et puis il y aura cette surtaxe d'IS. Il a combien le taux d'IS aux États-Unis? Il est à 30, c'est ça, non?
Alors, ça dépend parce qu'en fait, il y a un taux fédéral.
On va remonter de 25 à 28.
Ouais, il y a un taux fédéral et il y a un taux par État. Donc en Floride, par exemple, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés de l'État, il n'y a pas d'impôt sur le revenu de l'État. Donc au final. L'impôt sur les sociétés revient à peine un petit peu plus de 20%.
Ouais.
Mais si vous êtes à New York ou à San Francisco, là, vous doublez pratiquement le score. Les impôts, c'est pour ça que toutes les boîtes quittent les États démocrates aujourd'hui, parce que non seulement ils payent beaucoup plus d'impôts, beaucoup plus de charges, mais sans aucun bénéfice, avec des villes qui sont remplies de SDF et de drogués. Donc, très honnêtement, la gestion démocrate, moi qui n'étais pas très sensible au début à cette différence entre démocrate et républicain, il faut avouer qu'aujourd'hui, en termes de gestion, les États républicains sont souvent quand même beaucoup mieux gérés que les démocrates. Mais de l'autre côté, je crois que ce qu'on oublie dans ce débat, qui est une calamité par laquelle il faut passer, c'est surtout que les profits de demain, c'est les investissements d'aujourd'hui, en fait. Et qu'à partir du moment où on est juste concentré sur comment on va faire des économies, ça veut dire qu'on raye d'un trait de plume, voire d'un gros socle massif, le fait qu'il y a des investissements colossaux à faire dans des secteurs majeurs, l'IA et d'autres, qu'on ne va pas pouvoir faire parce qu'on en a juste plus les moyens. Donc ça veut dire qu'on va juste colmater les trous et les fuites qui sont monumentales, mais en plus on se prépare pas pour demain, et c'est ça qui est encore plus inquiétant.
On parle pas trop maîtrise des comptes publics dans votre campagne non plus, j'ai l'impression, en ce moment, apparemment. Là, c'est pour ça l'échalote.
Mais les États-Unis, l'avantage, c'est que comme ils investissent 6 fois plus que nous, à un moment donné, ils arrivent toujours à peu près à rattraper avec de la croissance ce qu'ils dépensent de l'autre côté.
Ouais. Ah, y a le dollar.
Nous, non.
Allez, 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h35, on est reparti avec nos experts. On est avec Jean-Victor Semeraro à la tribune, Denis Jacquet, le mouvement Day One, Benjamin Coria, professeur de Sciences Éco à Paris 13. Évidemment, on va dire un mot de la Floride, hein, l'ouragan Milton qui va frapper la nuit prochaine. Vous avez, au moment où on se parle, des milliers de résidents qui fuient. C'est une question de vie ou de mort, a dit la Maison Blanche. Puis on garde en mémoire le bilan de l'ouragan Hélène. Hein. C'était le mois dernier, hein, Denis, c'était il n'y a pas longtemps. 235 morts à travers 6 États du sud-est du pays, 235 morts. Quoi. C'est,
sans oublier les îles par lesquelles, ouais, souvent, Cuba ou Haïti, ou selon les cas, qui remontent d'abord, qui dévastent Key West, qui passent sur l'ouest, et puis après qui se réabat ou sur la Caroline, la Virginie, ou sur le mais c'est essentiellement le nord-ouest maintenant des États-Unis. Nous, c'est vrai qu'à Miami, entre le moment où j'y allais en vacances et le moment où j'y ai vécu...
Vous avez habité plusieurs années en Floride, j'ai oublié de préciser.
3 ans, et j'y allais depuis 7 ou 8 ans, et on n'a pratiquement pas vu un ouragan passer que sur la côte est à Miami depuis au moins 6 ou 7 ans. Donc il a clairement, avec le changement climatique, les courants marins, les différences de température, sauf que fait maintenant, il passe plutôt sur le côté ouest, donc dans le golfe du Mexique, il remonte et puis il s'abat sur la terre, et là, c'est une horreur.
Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit, cette intensification des événements du dérèglement climatique sur l'avenir de notre système assurantiel, parce que c'est cette question-là qui est posée finalement, Benjamin Coria, aujourd'hui.
La chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas dimensionné et prévu pour...
Il n'est plus dimensionné, voilà.
Ce type de catastrophe et cette fréquence de catastrophe. Bon, donc, sur les questions de technique assurantielle proprement dite pour ce type de catastrophe, j'ai pas grand-chose à dire. Je laisserai d'autres intervenir, mais ce qui me préoccupe, on va dire, c'est que chaque fois qu'on parle de programmes un peu ambitieux pour lutter contre le changement climatique, c'est les premiers qui sont coupés au premier prétexte. Dans le cas de l'Union européenne, c'est passé à l'as.
Alors,
donc, ça, c'est très ennuyeux.
Alors justement, attendez, je vous fais écouter Christophe Béchu, justement, l'ancien ministre de la Transition écologique, qui était ce matin chez nos confrères de TF1. Vous savez qu'on va raboter dans le cadre du budget le fameux fonds vert dédié aux collectivités locales aider les collectivités locales à se verdir. Et vous sentez qu'il n'est pas du tout à l'aise avec cette décision. Écoutez ce qu'il dit ce matin.
On peut toujours économiser, mais il faut bien mesurer que je pense que c'est un mauvais signal, parce que c'est la subvention qui sert aujourd'hui à accélérer en matière de transition écologique. Et le problème en matière d'écologie, c'est qu'on ne parle jamais du coût de l'inaction. Donc on compare ce que ça coûte avec ce qu'on pourrait économiser. Sauf que si on n'investit pas, par exemple, pour prévenir la montée des océans et l'érosion du trait de côte, ce que ça nous coûtera à la fin si on fait rien, ce sera 10 fois plus cher pour les finances publiques que ce qu'on fait. Dans les économies, c'est important de regarder les endroits où vous pouvez enlever du gras au maître de la justice et les domaines dans lesquels, à l'inverse, vous prenez demain des risques pour la suite.
Voilà, donc ça veut dire que les États n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur du problème de cette nouvelle donne environnementale. C'est comme ça qu'il faut
le comprendre.
Ça va impacter nos budgets demain.
Sans doute, et quand vous voyez les chiffres pour les assureurs, en 2022, c'était une année catastrophique. 10 milliards d'euros de coûts pour les assureurs pour les catastrophes naturelles. C'était 6 milliards et demi en 2023. Ouais. Et on projette, selon France Assureur, que ce serait 143 milliards entre 2020 et 2050 de cumulé de coûts. Donc forcément, ça pose des questions. Ça pose des questions de primes pour les personnes qui vivent notamment dans des zones à danger, à fort danger. Et ça pose aussi des questions aussi de relogement. Parce que les assureurs, quand on parle avec eux, ils vous disent, mais en fait, il y a des personnes qui ne veulent plus habiter dans ces zones-là, qui ont été inondées, par exemple, et qui ne veulent plus y retourner. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quel partenariat public-privé on peut mettre en place pour les aider et pour les reloger dans des zones plus sûres? Là, pour l'instant, c'est une question.
Qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis face à la multiplication de ces incidents, justement, sur le relogement, sur la prévention?
Beaucoup des États. Alors, des amis l'autre jour qui me faisaient remarquer que, justement, près de Fort Myers, où l'année dernière, l'ouragan s'était abattu, a fait plusieurs milliards de dollars de dégâts. Comme il y a une partie de population très riche qui, pendant le Covid, a quitté les États du Nord, Boston, Chicago, New York, qui était confinée pour retrouver un État qui n'était pas confiné. Du coup, ces populations excessivement riches, en 10 minutes, leur toit était réparé, ils avaient refait la maison, etc. Mmh. Et autour d'eux, c'était des immensités de maisons qui attendaient que les assurances un jour les remboursent, ce qui n'est pas toujours arrivé, pour refaire leur maison. Mais si je prends l'exemple même du bord de mer, ce qui est quand même dans le monde entier, la partie costale des territoires est monstrueuse. La France, c'est quand même 3/4 de côte littorale. Hein, quand on prend que ça, à Miami, tous les 3 ou 4 ans, ils investissent entre 300 et 500 millions pour remettre du sable dans l'eau. Mmh. Juste ça. Et là, ils ont voté un plan de plusieurs dizaines de milliards sur quelques années pour réélever sur pilotis des bâtiments, des ouvrages, des ponts. C'est colossal. Et là, en plus, les systèmes de canalisation ne fonctionnent pas. À Miami, il pleut 30 minutes, vous pouvez enlever vos chaussures, vos chaussettes, retrousser votre pantalon pour traverser juste une rue. Enfin, c'est une ville qui est bâtie sur l'eau. Mais à New York, qui est quelque part une île, on s'aperçoit que finalement, s'il y avait des inondations de cette nature à New York, la ville serait très très vite envahie par l'eau. Mm.
Benjamin, pour conclure.
Moi je redis la même chose et je redis comme le ministre, hein, c'est-à-dire que si on comptabilise les coûts de la non-action contre tout ça, même si on peut pas s'en défaire d'un retour de main et s'il faudra du temps, au moins qu'on prenne la direction. Moi, c'est toujours ce que je dis sur
la transition écologique semble avoir un peu disparu des écrans radars qu'on voyait les arbitrages budgétaires.
Ce qui compte, c'est de prendre la direction. Ensuite, on verra comment on fait.
Bien, voulez-vous me dire un mot de Google ? Est-ce qu'il faut démanteler Google ? C'est ce que pense l'administration américaine, alors qu'elle n'est peut-être plus là pour très longtemps, vous me direz. Hein. Mais qui dit réfléchir à la possibilité d'imposer au groupe de scinder ses activités, séparer Chrome du système d'exploitation Android. C'est un peu le serpent de mer, cette histoire, Denis, quand même.
Parce
on en parlait avec Frédéric Simotel, ça ne se fera pas. Jusque-là.
Non, ils n'iront pas jusque-là, mais voilà, on le disait tout à l'heure, le serpent de mer, même si ce n'est pas arrivé depuis très longtemps, de démanteler une grande boîte américaine pour la séparer en plusieurs morceaux.
Alors, on disait depuis AT&T en 84.
Ouais.
Hein, ça fait
mais Google avait commencé à s'y préparer en créant Alphabet et en commençant à séparer certaines de ses activités, donc il s'est dit qu'un jour ça arriverait, donc ils s'y sont préparés. Deuxièmement, la puissance du lobbying de ces groupes aux États-Unis est colossale. Troisièmement,
c'est un élément de souveraineté.
Voilà, les Américains sont protégés du déferlement chinois de Huawei qu'ils ont bloqué, etc. Qui du coup l'ont incité à développer un système d'exploitation qui est remarquable aujourd'hui, dernier cri, et qui ferait des ravages aux États-Unis aujourd'hui, qui est bien meilleur que celui de Google aujourd'hui. Donc je pense qu'ils vont pas démanteler leur propre géant, mais ils vont au moins symboliquement leur faire faire quelque chose. Ce quelque chose, je ne sais pas encore ce que c'est, il y aura forcément quelque chose, parce qu'il y a aussi besoin d'un appel d'air concurrentiel, parce que les États-Unis c'est normalement un pays libéral basé sur la concurrence, et on n'a que des monopoles. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut, comme l'air d'une pièce à un moment donné commence à être un peu vicieux, on sait très bien que le monopole, c'est un tue créativité, c'est un tue innovation. Donc il va falloir recréer de la concurrence à la concurrence.
C'est Google qui va payer un peu pour les autres.
Oui, et puis je pense que Google va finir, comme c'est arrivé avec la presse en France, par payer aussi des gens dont ils exploitent le contenu, et en leur disant il y a un partage de revenus à opérer.
Jean-Victor, c'est sûr,
sachant que l'AFP rappelait par exemple cet après-midi que Google pèse 90% du marché mondial de la recherche en ligne, et même 94% pour les smartphones.
Absolument.
Donc effectivement, ils sont en position de monopole écrasante.
Ouais. C'est moins compliqué. Oui, Benjamin. Oui.
Moi, j'ai l'impression de vivre un mauvais rêve parce que, on a déjà connu tout ça à propos de Microsoft. Mm-hmm. Hein, Microsoft, c'est exactement le même business model, à but de position monopole dans tous les domaines. Hein. C'est comme ça que l'Empire a été construit. Il y a eu le ministère de la Justice qui a fait une enquête, qui a conclu, alors dans les moindres détails, à tous les abus dans les différents domaines, et qui a prononcé la dissolution en plusieurs morceaux. Et Bush est arrivé au pouvoir, et vous plaisantez ou quoi ? C'est un de nos rares domaines de compétitivité, on ne va pas y toucher.
Évidemment.
Donc je suis à peu près certain que oui, il ne se passera rien. Mmh. On en reparlera.
Oui.
Bon, si au moins ça pouvait servir à revitaliser la concurrence en les tempérant dans un certain nombre de leurs abus pour permettre à des concurrents de développer leurs produits, ça serait déjà pas mal. Mais moi, je ne crois pas une minute que Google... C'est l'histoire de Microsoft.
Ouais.
On la connaît par cœur.
Et peut-être qu'il ne se passera d'autant plus rien que Google va peut-être porter l'affaire jusqu'à la Cour suprême.
Oui.
Donc, ça laisse...
Non, il n'aurait pas besoin ça soit Trump ou Kamala Harris.
Personne.
Ils ont des lobbies suffisamment puissants des deux côtés.
Mais au passage, on parlait tout à l'heure de l'action que Thierry Breton avait entreprise. Voilà, l'Europe qui a un petit peu durci le ton. Comment est-ce qu'on regarde l'Europe, la régulation européenne du côté des États-Unis ? Est-ce qu'on nous prend un petit peu moins pour les idiots du village depuis quelques années ? Ou quand même, vous avez le sentiment que...
Maintenant, on a compris que le camp de l'Europe était simple. On n'innove pas, on n'investit pas, on n'a pas de champion. Donc, le seul territoire qui nous reste, c'est celui de la régulation. Hein. Donc, je veux dire, ça fait rire tout le monde. Donc, alors, Alors évidemment, il y a quelques États qui s'en inspirent. Hein. Là, on arrive à répandre même les meilleures épidémies. Donc la RGPD a fait son chemin en Californie, un petit peu à New York. Alors ce qu'on oublie de dire, c'est que souvent, il y a une RGPD très très dure en Chine,
oui.
Mais, sauf pour l'État. Donc, mais pas pour les entreprises, elle est extrêmement et fortement appliquée, et presque violemment, comme c'est le faire les Chinois. Mais l'État chinois, lui, a le droit d'accéder à toute la data. C'est ce qui fait un petit peu sa force. Donc, en fait, et même dans les milieux français ou autres, le rapport Draghi a permis oui. de mettre en avant les déficiences hallucinantes de l'Europe en matière de non-investissement technologique. Parce que sur l'investissement non technologique, l'Europe fait toujours jeu égal avec les États-Unis. Sur la techno, je le rappelais tout à l'heure, c'est 6 fois moins que les États-Unis, 3 fois moins que la Chine. Donc, les États-Unis, comme la Chine, ne regarde même plus l'Europe, elle la regarde comme un futur asservi qui consommera ce qu'on lui donnera.
Au moins, ouais. ça mérite d'être clair. Bon, alors, puisqu'on est dans la tech, on va rester dans la tech, ça vous fait rire, Benjamin. Ce jugement est
fini. Ça me fait rire parce que toute cette régulation, cette réglementation, elle aboutit absolument à rien.
Ouais.
Ça veut dire que je crois que la fameuse commissaire irlandaise, je crois, non, ou hollandaise.
Margaret Vestager.
Oui, voilà. Elle a réussi à obtenir une condamnation
oui.
d'Apple,
13 milliards.
En attendant
oui.
qu'elle soit annulée, et ouais. puis c'est tout. Ouais, donc je veux dire, en plus, ça sert à rien.
Ouais. Parce que c'est très étonnant, dans un but de foot, même Allez. Si vous mettez les 11 joueurs, il y a toujours quelqu'un qui arrive à passer le ballon.
Ça qui fait le charme du sport. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, OpenAI, le créateur de ChatGPT, qui nous a donc annoncé qu'il ouvrait un bureau à Paris, son deuxième en Europe. Ils sont à Londres déjà depuis 18 mois. Cette présence doit permettre à OpenAI d'accéder au vivier de talents français, a réagi le groupe. Est-ce que vous dites bonne nouvelle, ils reconnaissent notre savoir-faire? Ou vous dites mauvaise nouvelle, ils vont venir plumer nos talents, finalement? Comment est-ce que vous voyez ça, vous?
Ouais, ils vont pas en prendre. Oui, vas-y.
Je pense que c'est l'un des rares points qu'on pourra mettre au crédit d'Emmanuel Macron sur la fin de son mandat. Et depuis 2017, il a quand même beaucoup poussé avec Choose France, pour l'attractivité française, pour ramener des boîtes en France. On voit que les boîtes américaines continuent à devenir, etc. Donc je crois qu'on est quand même, pour la cinquième année consécutive, le pays d'Europe le plus attractif aussi, hein, selon le baromètre annuel de EY. Donc c'est quand même un point positif pour la France et c'est un point à mettre au crédit du président de la République, alors que tous les bastions macronistes à côté s'effondrent, notamment on a parlé du budget. il reste ça.
Ils vont venir piocher dans nos talents, chercher nos ingénieurs français, alors peut-être plus talentueux.
Moi, je crois que c'est
dont les salaires seront moins élevés que ceux des Américains et des Britanniques.
Il faut jamais oublier que en matière de soft, il y a un savoir-faire français.
Bien
hein,
sûr.
Je veux dire, dans les boîtes de jeux, etc., on s'arrache les designers français. Ouais, hein,
c'est
je veux dire, la Silicon Valley est remplie de talents français en matière de soft. Bon, donc l'IA, qui ne nous doit absolument rien, qui est née ailleurs, a compris ça. Donc, ils viennent s'installer ici. Donc, dans un premier temps, c'est évident que ça va être pour siphonner les talents. En même temps, ces gens, ils vont apprendre des choses et ils vont bouger. Donc, à moyen terme, ça peut produire des effets qui peuvent être intéressants.
Bon.
Mais dans l'immédiat, il ne faut pas se faire d'illusions.
Bon. Ils viennent chasser sur les terres de Mistral, qui est notre étendard de l'intelligence artificielle.
Moi, je modérerai le... l'ardeur tout à fait positive et que je comprends de l'attractivité.
Oui. Bon, on vient de plumer, quoi. Voilà,
quand,
c'est
quand
ça.
Macron a fait ce show à l'Elysée, après Vivatech, tous les ans, etc. En fait, les boîtes venaient dire, annoncer...
Et il y en aura un autre en février prochain, sommet international de l'IA à Paris.
Oui, de l'IA. Venaient annoncer des investissements qu'ils allaient faire, etc. En fait, c'était juste dans leur plan tel que c'était prévu. Donc, c'est comme les grands contrats qu'on signe au déplacement des présidents. Hein. C'est un scénario qui est écrit d'avance. Et surtout, effectivement, la réalité, c'est qu'en fait, vous regardez à San Francisco, vous prenez un jeune de 22 ans, vous êtes déjà obligé de le payer entre 150 et 200 000 dollars. Vous venez en France, vous avez le même en meilleur et plus expérimenté. À 50 000, donc ils viennent faire leur course en fait, hein. c'est pas un niveau d'attractivité, c'est qui le tiers monde du développement informatique dans un pays civilisé avec une éducation gratuite et une santé gratuite, la France, bon bah on va y mettre des gens, mais je suis d'accord avec Benjamin.
Je crois qu'ils ont prévu d'ouvrir un bureau après à Bruxelles et un autre à Singapour.
Voilà, on va aussi avoir des gens qui vont travailler sur des sujets clés, qui demain peuvent aller bosser aussi dans une boîte française, rester en France, donc ça peut nous servir.
Et s'ils créent une équipe de R&D, ils pourront bénéficier du credo.
Ils vont pas en prendre des
milliers
d'influents. Ah oui, non, mais c'est vrai.
Ah bah
oui.
C'est pour ça qu'ils viennent. De
c'est peut-être aussi pour ça qu'ils viennent.
Part, ils viennent parce que c'est prévu. Ouais. Ils prévoient d'autant plus qu'il y a du crédit d'impôt.
Vous voyez, il ne faut pas sabrer dans le crédit d'impôt recherche, dont on ne sait toujours pas s'il va être toiletté ou pas.
C'est la partie des inquiétudes. Le crédit d'impôt recherche le plus favorable du monde. On entend qu'on a beaucoup de charges ici, etc. On oublie de dire que c'est le pays, c'est le crédit d'impôt recherche le plus favorable de toute la planète. Donc les gens viennent.
Et dont se servent les grands groupes qui n'en ont vraiment pas besoin, mais alors qu'ils devraient être réservés aux PME.
Attends, ne généralisez pas non plus.
Ils ont les moyens d'investir.
Il y a certains groupes qui n'en ont pas besoin.
Ils ont besoin d'économiser 1 million, 2 millions, 3 millions à l'échelle de groupes qui font des milliards.
Jean-Victor,
alors, il faut les réserver aux ETI, aux boîtes de moins de 5 000 personnes.
Sur le crédit d'impôt recherche, il sera peut-être toiletté en fonction du secteur d'activité. Est-ce que certains groupes, notamment par exemple du luxe, ont vraiment besoin de ce crédit d'impôt?
Bon, ça, on n'aura pas la réponse demain. Si le crédit
est-ce que les banques qui fabriquent leurs produits financiers ont besoin du crédit d'impôt recherche? Non, je ne dis pas ça pour rien.
Comment rechercher pour monter nos frais bancaires?
Parmi les principaux bénéficiaires.
On verra. Niche fiscale à 7 milliards, la plus grosse niche fiscale dont on verra si elle est toilettée ou pas. Mais ça, on n'aura peut-être pas la réponse demain. 19h51, l'extra time pour terminer dans vos avis du soir sur 30 secondes. Coup de gueule ou coup de cœur, c'est à votre discrétion. Qui va commencer? Benjamin, il a pu. Vous en avez pu?
Comment?
Vous n'avez pas de coup de gueule?
Honnêtement.
Ah, vous avez oublié?
Oui, j'ai zappé. J'ai zappé, ça laissera un peu plus de temps.
On se partage le.
Il n'y a rien qui vous a agacé aujourd'hui, spécialement.
Oh, il y a plein de choses qui m'ont agacé. Alors, on va dire que, d'une manière générale, alors je vais faire un coup de gueule.
Allez-y.
Michel Barnier n'a pas la tâche facile. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais c'est vrai que ces gens qui nous ont conduits à la situation dans laquelle ils nous ont conduits, qui s'érigent en donneurs de leçons et qui nous expliquent qu'est-ce qu'il faut faire, ben, s'ils savaient si bien, ils avaient qu'à le faire. Enfin, je veux dire. Bon, voilà.
Dans le petit jeu politique, là.
Vous voyez, j'ai pas besoin de me forcer, mais vraiment.
Je vois ça, oui.
Ça part tout seul.
Nous, on a fait les économistes atterrés parce qu'il y avait eu la crise de 2008. Ouais. Bon, et que, il se passait rien. Là.
Allez-y.
De nouveau, on pourrait redevenir atterré.
Ah bah vous allez retrouver. Bah vous n'avez jamais cessé d'être atterré. Donc c'est ça qui fait votre charme.
Atterré,
Denis Jacquet, 30
atterré,
secondes.
Atterré, mais pas enterré.
Non. Voilà.
Alors secondes. Moi, j'avais rien non plus. Et puis j'ai repensé. J'étais lundi soir à une réception pour lever des fonds pour une des plus vieilles imprimeries françaises qui est dans le quartier de Montparnasse et dont qui fait toutes les lithographies sur une imprimante qui pèse 16 tonnes. Dont David Lynch est tombé amoureux, donc du coup j'étais à cette soirée avec David Lynch donné pour ce truc-là, qui en plus est un personnage délicieux.
Formidable.
Et on a vu ce truc où des Américains et des Français étaient en train de se cotiser pour racheter le bâtiment pour que ça ne devienne pas une supérette et qu'on puisse préserver ce savoir-faire dans lequel Picasso, Giacometti ont fait des trucs sur papier et sur pierre. Ils gravent sur
et
pierre.
Et c'est dans quel quartier ça vous
Montparnasse,
dites Montparnasse.
À l'angle de la rue et du boulevard de Montparnasse. Ça, je vais aller le visiter demain. Je suis tombé, comme tout le monde, amoureux de ce truc-là. C'est magnifique.
Ça, c'est une belle
histoire. Tellement une pièce d'histoire de la France sublime.
Mais voilà, beaucoup de cœur.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Victor, 30 secondes, c'est à vous pour conclure.
Juste une petite précision sur le budget, qui en dit quand même beaucoup. On a dit que la surtaxe d'impôt sur les sociétés devait rapporter 8 milliards.
Oui.
Et finalement, une note de l'Institut des politiques publiques dit que ce serait plutôt 6,2 milliards. Donc déjà, la mesure n'est pas encore actée que le rendement sera plus faible.
C'est là que vous dites votre deux tiers à tiers, il est encore un peu plus mité par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure.
On sera à 23% de moins. Comment l'IPP est arrivée à ça? Elle s'est basée sur la baisse de l'IS américain faite par Trump. Et en calquant ça, elle s'est rendue compte qu'effectivement, le rendement ne serait pas du milliard, mais de 6,2.
Eh ben, on n'est pas aux 60 milliards d'efforts. Il va se passer des choses d'ici fin décembre. C'est important de le préciser. Bon, on va regarder ça de très près. Merci, messieurs, d'être venus ce soir, en tout cas, sur le plateau. Benjamin Coria, Denis Jacquet, Jean-Victor Semeraro. Merci à tous les trois. À très vite, avec plaisir. 19h54, je vous redonne vite les grands titres de l'actualité. Avant Tekkenco, dans un instant, le chiffre se précise. Donc, déficit de la sécurité sociale attendu à 18 milliards d'euros cette année. Un peu en dessous des 16 milliards l'an prochain. L'Allemagne s'est confirmée encore en récession cette année et pour la deuxième année consécutive, Berlin l'a confirmé. Ce midi, Google va-t-il devoir se scinder en plusieurs morceaux? L'administration américaine évoque clairement cette possibilité alors que le groupe a été condamné récemment pour situation de monopole dans le domaine de la recherche en ligne. Et puis Jean Castex qui rempile pour 5 ans à la tête de la RATP, sa reconduction a été validée aujourd'hui à l'Assemblée après le Sénat. La semaine dernière, 19h55, Tekkenco, Frédéric Simotel dans quelques petites minutes. Nous, on se retrouve bien sûr demain 18h en direct pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain. Good evening.
Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.